On se retrouve pour un tout nouvel épisode d'Inspire-toi et aujourd'hui pour l'épisode, je reçois Marie-Madeleine. Avant qu'on commence l'épisode, là, je tiens à faire un trigger warning. Je ne vais pas tout énumérer ici, mais je vais mettre dans la barre de description ce qui pourrait être difficile pour certains à entendre. Ça ne sera pas un épisode facile, mais Marie-Madeleine a accepté bien gentiment là, de venir nous partager ses expériences. Donc voilà, je vous laisse le trigger warning, puis on commence l'épisode. Allô, Marie-Madeleine, ça va bien?
Oui, toi?
Oui. Donc, toi, tu m'as contactée par Instagram pour venir partager les expériences que tu as vécues. Tu as frôlé la mort à plusieurs reprises.
Ouais.
Puis, juste ça, c'est intense, tu sais, de la frôler une fois, mais plusieurs fois, c'est l'enfer. Tu m'as dit un peu les grandes lignes de ce qui t'est arrivé avant que tu sois ici aujourd'hui.
Mm-hmm.
Puis, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de tes expériences, puis ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé. Fait que si on commence, tu m'as dit, c'est ça, sur Instagram, tu m'as dit que tu avais vécu plusieurs situations où tu as frôlé la mort.
Mm-hmm.
Puis, j'aimerais ça qu'on dise les grandes lignes de ces trucs-là, puis après, on va rentrer plus en détail dans les situations.
OK. Donc, la première fois que j'ai frôlé la mort, je dirais, c'est en Haïti. Je restais là avec la famille et il y avait le tremblement de terre et de 2010
oui.
que j'ai vécu. Et pendant que j'étais en Haïti aussi, on m'a mis un fusil à la tête pour nous cambrioler, je pense que c'est ça que ça s'appelle.
Pour vous cambrioler?
Pour prendre nos affaires,
oui,
pour nous voler. Qui était très traumatisant. Je pense que j'avais genre 8 ou 9 ans.
Ah oui?
Ouais.
Est-ce que ça s'est passé dans la même période? Est-ce que, dans le fond, c'était en même temps que le tremblement de terre?
Je pense que c'était... Je sais pas si c'était... je pense que c'était avant.
OK.
Parce qu'après le tremblement de terre, je suis pas revenue.
T'es pas revenue à Haïti?
Non, je suis pas retournée en Haïti.
OK.
Donc, je pense vraiment que c'était avant. J'ai fait plusieurs comme aller-retour en Haïti. Donc, c'était une des fois que j'étais là-bas que ça nous est arrivé.
Puis, si on va commencer par l'événement, justement, de quelqu'un qui voulait vous cambrioler puis qui t'a mis un fusil sur la tête. T'étais une jeune enfant.
Oui.
Puis, comment ça s'est passé? La personne s'est introduite chez vous puis elle t'a pris comme en otage pour voler vos choses ou...
On a atterri à Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti.
Oui.
Puis, du coup, d'habitude, on a une personne qui nous conduit, comme qui fait partie de la famille, qui nous conduit de l'aéroport à notre maison à Miragoâne, donc 2 heures de route. Mais cette fois-là, on n'avait personne pour nous conduire, donc on a pris un genre de taxi. Mais c'est pas vraiment un taxi, c'est comme un pick-up, puis tout le monde s'assoit en arrière du pick-up, genre...
Okay.
Dans la boîte, non?
Du
pick-up. Puis il y a des bancs et tout ça. Donc, on a pris un transport en commun pour la première fois. Puis, ça s'est mal tourné. On était pris en trafic à Port-au-Prince. Et il y avait une gang qui avait arrêté le trafic. Ils font ça souvent là-bas, dans ce temps-là. Donc, ils vont juste arrêter toutes les voitures sur la... Pas l'autoroute, là, mais sur la route. Puis ils vont vérifier toutes les voitures, voir s'il y a quelque chose à voler, voir s'il y a quelqu'un blanc, comme, parce qu'ils vont aller voir une personne qui est blanc parce qu'ils vont avoir plus d'argent, parce qu'ils viennent d'un pays étranger, qui vérifiait toutes les voitures. Et c'est pour ça qu'on prenait toujours une voiture privée avec les fenêtres teintées et tout ça.
OK.
Donc, il nous a spotés immédiatement. En arrière d'un tap-tap, il y avait moi, mon père blanc, et ma mère.
Oh.
Et on avait aussi mon chien qu'on avait amené du Canada et mon chat. C'est dans des...
Dans des transporteurs.
Ouais, là. Dans des transporteurs. Puis, ils nous ont trouvés, ils nous ont mis une fusil dans la tête en plein milieu du trafic. Tout le monde était arrêté, donc... fait que là, ils ont mis une fusil à ma tête. Et je pense qu'il y avait un autre sur la tête à mon père. Puis ils nous ont dit, genre, donne-nous... votre sac, donne-nous la sacoche à maman, parce qu'elle tenait une sacoche. Ils ont dit, genre, donne-nous la sacoche. On l'a pas donné, on était un peu confus. On pensait qu'il est en train de nous faire un bluff, parce qu'on savait pas si c'était un vrai fusil. Mais il a tiré en l'air.
Ah,
puis
ouais.
Il a dit, donne-nous la sacoche. Fait que là, ma mère l'a donné facile. Et ouais, ils sont partis en courant. J'ai regardé autour de moi, j'étais en mode, mais pourquoi personne nous a aidés, genre?
Oui.
Mais je pense qu'ils sont juste habitués, puis ils veulent pas se mêler dans ça. Ils veulent pas être tirés non plus, donc... Ouais.
Puis tu étais très jeune. Comment toi, tu as vécu ça à cet âge-là? Est-ce qu'au début, tu comprenais pas trop ce qui se passait ou tu étais vraiment traumatisée, tu avais peur?
J'avais vraiment peur. J'avais genre 8 ans, donc comme troisième année, donc je sais, genre, je suis consciente. Oui. Donc ouais, j'avais vraiment peur. Mais j'étais vraiment dans le choc.
Mm-hmm.
Donc je sentais un peu de peur, mais pas vraiment, genre... C'était juste comme, oui. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Fait quoi, on est sorti du tap-tap et le monsieur qui conduisait la voiture. Et on pense que c'est lui qui avait appelé la gang pour nous cambrioler parce qu'il était toujours au téléphone. Il était vraiment chelou, il était vraiment bizarre.
Mm-hmm.
Puis il m'a pris par le bras quand on est sorti de la voiture. Il dit non, reste. Puis j'étais comme non. Fait que là, genre, je me suis retirée, le bras, il me tenait pas vraiment comme fort, là. Puis on est parti, on a trouvé une voiture de police, puis on est entré là-dedans avec nos animaux et tout ça.
Est-ce qu'à ce moment-là, dans le fond, toi, tu habitais déjà au Canada ou vous étiez à Haïti? Puis as-tu vécu à Haïti ou c'était juste des allers-retours pour aller voir la famille là-bas?
Non, j'ai quand même vécu, j'ai resté là longtemps, j'ai fait l'école là-bas et tout ça.
OK.
Mais je suis née au Canada, puis je suis allée en Haïti quand j'avais genre 7 ans. Okay. Et j'étais là comme on and off, ça, je me rappelle pas des timelines de quand j'étais là, mais j'étais là entre 7 et 9 ans et j'étais là longtemps, genre je faisais l'école et tout.
OK. Puis après ça est venu le tremblement de terre de 2010.
Oui.
Ça, moi, j'étais quand même assez jeune là, à cette période-là, j'imagine. Ouais. Toi aussi, là, t'avais 8 ans,
9 ans. À 2010.
Moi, là, rapidement comme ça, je ne sais pas, mais... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu sais, je veux dire, c'était un gros tremblement de terre, là.
Oui, c'était un 7, je pense.
Oui, 7 sur 10.
Ouais, quelque chose comme
c'était
ça.
C'était assez intense, puis ils ont été plusieurs années à rebâtir. D'ailleurs, je ne sais pas si encore aujourd'hui ils sont dans les décombres de ça.
Ouais, je pense qu'ils sont quand même en train de rebâtir comme plus les politiques après ça, parce que ça a tout brisé les politiques aussi. Mais je pense que les bâtiments sont reconstruits maintenant. Je pense que ça va.
Puis ici au Québec, on n'est pas habitué à des gros tremblements de terre. T'sais, on a des petites secousses qu'on va sentir.
Comme
mais
un ou deux.
C'est ça. Mais on sent pas... on n'a jamais, je pense, vécu... En tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça, un gros, gros tremblement de terre.
Mm.
Ça ressemble à quoi? C'est quoi qui s'est passé?
Donc, ça ressemble... C'est dur à expliquer, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la salle de bain avec mon amie. Elle restait souvent chez moi, puis j'ai fini l'école, fait que je suis allée chez moi, on était dans la salle de bain. Et tout à coup, juste comme ça, je sens comme la terre est en train de secouer, et j'ai vu un peu de peinture sur le plafond en train de...
Craquer?
Ouais, de craquer. Et j'étais vraiment confuse. Honnêtement, il y avait rien dans ma tête sauf que... Il faut que je sorte de la maison.
Mm-hmm.
Mais on était quand même dans une grande maison. On était dans une ville comme... On était dans une ville de ferme, quand même, genre pauvre. Mais on avait quand même une grande maison, 2 étages. C'était la plus grande maison de la ville. Puis, ouais, j'ai essayé de sortir par plusieurs portes, mais les portes ne s'ouvraient pas. Je pense parce que j'étais trop stressée. Donc, j'ai couru à la porte en arrière, ça n'ouvrait pas. Je courus à une porte de côté, ça n'ouvrait pas non plus. Puis, finalement, la mienne à ma mère est venue dans la maison nous prendre, moi et mon amie, et nous sortir de la maison parce que, tu sais, ils voulaient pas que ça tombe sur nous. Oui. Et on attendait, genre, il y avait des cris et, genre, tous les meubles étaient en train de secouer aussi dans la maison, des gros meubles. Donc, ouais, c'est... Je dirais, j'avais peur, mais le peur était plus loin dans ma tête. Il y avait plus comme un choc, un filtre de choc.
Puis là, quand on regarde ça, t'es rendu à 9 ans dans cet événement-là, puis t'as déjà vécu 2 trucs marquants dans ta vie. Le tremblement de terre, ça devait pas être facile, parce que même si tu sors de la maison, le tremblement de terre a lieu quand même. Est-ce que par la suite, tu sentais que avais-tu des traumatismes? Est-ce que t'es revenu au Canada par la suite du tremblement de terre?
Je suis retournée au Canada... par la Croix-Rouge et la militaire?
L'armée canadienne.
Oui, l'armée canadienne. Et on est allé du coup à l'ambassade en Haïti canadienne. Puis ils nous ont laissé entrer. Ils laissaient, du coup, tous les Canadiens pouvaient entrer à l'ambassade pour rester dans les armées. Je ne sais pas où
c'était. Les camps de réfugiés.
Oui, okay. Dans ces camps-là. Puis, je suis restée là. J'étais en Haïti, je pense, pour 3 jours après le tremblement de terre. Je pense que je fais comme 1 ou 2 jours à la maison. Ensuite, j'ai resté peut-être 1 ou 2 jours au camp de réfugiés en Haïti, à dormir sur des lits armés, avec plein d'autres Canadiens, plein d'autres enfants. Puis, la Croix-Rouge nous a ramenés au Canada.
OK.
Mais mon père n'était pas là. Donc, c'était juste moi, ma mère et ma grand-mère, je crois, on est retournés.
OK. Puis là, quand tu es arrivée au Canada, toi, dans le fond, quand vous êtes revenue officiellement, est-ce que après, vous avez passé un moment sans retourner là-bas ou vous êtes restée?
On n'est jamais retourné.
OK. Vous n'êtes jamais retourné. Ouais. Est-ce que une fois rendu ici, ce sentiment-là de peur puis de choc, t'as senti qu'il s'était estompé ou t'avais quand même des craintes que ça arrive ici? Te sentais-tu plus en sécurité?
Je me sentais pas en sécurité ici. Non, parce que j'avais pas une logique comme ça, parce que j'étais trop traumatisée. Je pouvais pas penser, en Haïti, ça se passe, mais au Canada, ça se passe. Moi, je savais pas que au Canada, ça se passe moins. Genre, je savais pas tout ça, le science avec les tremblements de terre. Mais quand je me suis fait cambrioler, par contre, ça ça s'est passé de ma tête après, genre, 4 heures, là. Genre, le traumatisme s'est mis vraiment fond dans mon cerveau, puis j'ai pu penser jusqu'à temps que j'ai eu, genre, 16 ans, quelque chose comme ça.
Comme ton corps qui s'est défendu en t'enlevant ça de la tête, dans le fond.
Ouais, exactement. Donc ça, c'est parti, mais le tremblement de terre, quand je suis arrivée, ils nous ont déposés à Dorval, à un hôtel à côté de l'aéroport. Tout le monde restait dans l'hôtel. Et j'étais toujours en pleurs. J'étais toujours stressée parce que je pensais que si ça allait recommencer. Et je voyais tous les buildings vraiment, vraiment grands. Puis j'ai pensé à tous les buildings que j'ai vus en Haïti qui se sont effondrés. Puis à tous les corps morts que j'ai vus. Genre, j'ai vraiment vu de tout, c'était n'importe quoi.
T'as tout vu, là?
J'ai vraiment tout vu. Parce qu'il fallait conduire, aller à Port-au-Prince pour aller au camp de réfugiés. Donc, j'ai passé à travers tous les maisons. Je voyais genre des bras, des jambes qui sortaient sous les maisons et tout ça. Donc, j'étais très traumatisée. Je me rappelle, je parlais avec une infirmière de la Croix-Rouge qui m'a expliqué, genre, non, c'est normal, genre, c'est normal que tu sois stressée, ça se passera pas au Canada, genre, c'est pas comme ça ici, genre, t'es correct maintenant. Puis ça m'a pris du temps à réaliser.
C'est sûr que pour un enfant, c'est très traumatisant. Est-ce que le fait que tu allais souvent en Haïti, puis que justement, ta mère est haïtienne, est-ce que ta mère t'avait mis au courant que ce genre de choses-là arrivaient, comme les cambriolages, les tremblements de terre, versus ici, tu sais, ici, on met pas vraiment en garde les enfants contre les tremblements de terre parce que ça n'arrive pas, mais est-ce que toi, t'étais au courant que c'était quelque chose qui pouvait arriver ou tu l'as appris à ce moment-là?
Les cambriolages, on était habitués parce que quand on allait à Port-au-Prince, on savait qu'on pourrait se faire cambrioler. C'est comme normal là-bas, les cambriolages. Donc, quand on passait à Port-au-Prince, elle me faisait coucher sur le plancher de la voiture pour me cacher, pour pas qu'ils voient qu'il y a quelqu'un avec une peau plus claire dans la voiture. Parce qu'ils volaient juste les touristes. Donc, ils pensaient que j'étais touriste, donc ils faisaient ça. Donc, la seule raison qu'on s'est fait voler en Haïti, c'est parce que cambrioler, c'est à cause de mon père et moi, parce que mon père est blanc et moi, je suis light skin plus clair. Donc, c'est pour ça. Donc, j'étais très habituée avec les cambriolages. Ça nous est arrivé seulement une fois parce qu'on ne s'est pas caché, mais j'étais très habituée. Les tremblements de terre, non.
Okay.
On n'a jamais parlé de tremblements de terre de ma vie.
Puis tu savais, dans le fond, toi, que parce que tu as la peau plus claire, que les gens voulaient plus vous cambrioler?
Oui.
C'est une grosse pression pour un enfant, quand même, de sentir que sa couleur de peau a un, instance sur sa sécurité.
Ouais, j'ai pas pensé. mais ouais, c'est
quand qu'on pense à ça une fois adulte, là, c'est intense.
Ouais, que genre la couleur de ma peau, ça peut être la différence entre si quelqu'un me kidnappe ou pas, genre.
C'est terrible fou. Quand même. Là.
Ouais.
Puis, ouais. C'est vraiment épouvantable. Puis là, si on se téléporte un peu plus loin, quand tu es revenu au Canada après le tremblement de terre, tu es arrivé ici avec la Croix-Rouge, et là, il y a eu un autre moment qui t'est arrivé. Je pense que tu m'as parlé, si tu es à l'aise encore une fois d'aller là, tu m'as parlé d'anorexie. Je crois que tu es tombée... explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ça a commencé quand tu étais jeune, plusieurs années plus tard? Qu'est-ce qui est arrivé?
OK, donc avec l'anorexie, donc pour le timeline, 9 ans, retourné au Canada.
Oui.
Ensuite, on a déménagé en Ontario, puis on a déménagé au Québec. Donc, je restais au Québec quand j'ai été diagnostiquée avec l'anorexie. Comment ça a commencé? C'est que je me faisais beaucoup intimider à l'école. Toujours, toujours intimidée. Genre en Ontario et au Québec. Donc,
Excuse-moi, toi, dans le fond, au départ, t'es née en Ontario ou t'es
née... Je suis née en Ontario. Okay. J'ai resté en Haïti. Je suis retournée en Ontario puis je suis allée au Québec.
OK, parfait. Ouais. Fait que ta première langue, c'est l'anglais?
J'étais à une école française en Ontario, donc c'est vraiment comme...
Un peu les deux.
Ouais.
OK, parfait. Ton père, il parle anglais?
Anglais, ouais. Okay. Et ma mère créole, français plutôt, et anglais.
Parfait. Excuse-moi, continue. C'est juste pour me situer.
Ouais, donc, on était au Québec, puis je me faisais toujours intimider à l'école. Je me faisais intimider beaucoup parce que je parlais moins bien français, parce que comme la façon dont ils parlent en Ontario, c'est très différent que le québécois.
Oui.
Donc, ouais, je me faisais tellement, genre, toujours intimider, et surtout pour mon apparence et mon poids et tout ça, mes cheveux... chose comme ça. Et à la maison, ça se passait pas très bien non plus. Mon père, il travaille à l'étranger, mais mes parents sont toujours comme... Ils sont ensemble, mais ils travaillaient loin. Puis ça se passait pas très bien à la maison aussi. Ma mère était un peu... Elle me faisait un peu d'intimidation aussi par rapport à mon corps. Elle me faisait... Genre, elle voulait que je me pèse à tous les jours, voir si je prenais du poids. Elle me disait, genre, que personne ne me voudrait si je suis trop grosse, que les hommes ne me voudraient pas. Mais, genre, je ne pensais pas aux hommes, là. J'avais, genre, 12 ans. Mais c'était plein d'affaires comme ça. Puis je la voyais aussi, elle aussi, se peser, tout ça. Puis, donc, j'en avais un peu marre. Donc, j'ai dit, OK, ben, je vais commencer à perdre un peu de poids. Je vais commencer à moins manger. Et ma mère voyait ça, que je commençais à moins manger. Puis elle était genre, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, t'es laide, genre, tu vas paraître pour un anorexique, genre, tu sais pas c'est quoi, genre, c'est tellement dégueulasse, ces personnes anorexiques sont tellement laides. J'étais comme, ah, oh, anorexique, c'est quoi ça? Fait que là, même si elle a dit, ah, ils sont laides, genre, les personnes anorexiques sont horribles, moi, j'étais en mode, donc, je peux être mince et aussi, je peux faire chier ma mère. Parfait. Mmh. Donc, je suis allée en ligne sur Tumblr, j'ai recherché comment être anorexique. Ah, et genre, j'ai vraiment juste comme suivi ça. Et au début, j'avais le contrôle. Je faisais les petits les diètes que je voyais en ligne. Ils sont toujours ça, c'est sur TikTok maintenant. Des vidéos comme comment être anorexique et tout ça. Puis, je suivais ça. Et de petit à petit, je commençais à perdre le contrôle. Et ouais, je commençais à vraiment perdre la tête aussi. J'avais peur de la nourriture. Il y avait un moment, j'avais peur de même boire de l'eau parce que j'avais peur de, genre, que ça se peut qu'il y ait des calories, du pâte à dents aussi, j'avais peur de ça, genre, qu'il y ait des calories, de la nourriture, toucher de la nourriture, c'était tout ça.
C'est terrible quand même parce que la pression de la minceur, là, malgré ce qu'on dit avec le body positivity, en ce moment, oui, il y a un beau mouvement, mais il y a encore beaucoup cette pression-là de la minceur, puis de toujours être parfait. Puis, dans ces années-là, justement, je savais qu'il y avait des blogs où est-ce que, justement, les anorexiques, entre elles, ben, les personnes avec un trouble du comportement alimentaire, point, s'encourageaient entre elles de pas flancher à manger ou quoi que ce soit. Mais je pensais pas qu'encore aujourd'hui, il y avait des vidéos sur ça pour encourager ça. Ça a juste changé de plateforme. Dans le fond, c'est rendu sur TikTok, mais dans tous les cas, c'est quand même terrible quand on pense à des choses comme ça. Puis toi, du haut de tes 12 ans, t'avais pas t'avais pas l'esprit pour penser à ces choses-là. Toi, tu pensais à ce que tu voulais avoir l'air, puis tu... Tu sais, dans le fond, c'était pas ton rôle à toi de comprendre que ça, c'est des comportements qui sont pas bons pour toi, mais que... Tu sais, toi, tout ce que tu voulais, dans le fond, c'était le résultat.
Ouais, je voulais juste que le monde arrête de m'intimider, puis je voulais que le monde me traite bien, du coup. C'est juste ça que je voulais.
Mais oui, je comprends. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ça, j'imagine que ça a fini par dégringoler, là.
Oui, complètement. J'ai vraiment... Quand je dis que j'ai perdu la tête, j'ai vraiment, mais vraiment perdu la tête. Je faisais des attaques de panique tout le temps. Genre, si... Je pouvais même pas être trop proche d'une personne que je trouvais était en surplus de poids parce que j'avais pas... Genre, je commençais à faire des délusions parce que je mangeais pas. Genre, je peux pas penser correctement. J'étais tellement dans un délire dans ma tête. Je voulais pas être proche des personnes parce que je voulais pas que ça m'influence leur grosseur. Genre, j'ai... je me suis vraiment perdue. Donc, comment ça s'est procédé après? J'étais à l'école, puis la travailleuse sociale de l'école m'a vue en train d'être tellement mince, puis je mangeais pas, puis j'étais toujours en train de pleurer. Fait que là, elle est venue me voir, puis elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, elle a pas parlé de mon poids, mais genre, elle faisait des insinuations, puis finalement, je pense qu'elle a fait une plainte à la DPJ, puis la DPJ, une travailleuse sociale, pas encore la DPJ, mais après ça, ils m'ont mis avec un psychologue, vraiment vite, ça s'est passé quand même vite. Puis, et un docteur aussi, puis ils m'ont dit que ça on est allé trop loin. Je pesais genre, je pense, au début, je pesais genre 115. Je suis très grande aussi, je fais 6 pieds 1. Donc, dans ce temps-là, j'étais très grande. Donc, je pesais 115 et là, avec la visite avec mon docteur, je pesais 75. Oh. Donc, j'étais vraiment os et peau, genre, j'étais vraiment à bord de mourir, puis ils m'ont dit, genre, que je peux pas continuer comme ça parce que mes organes vont plus être capables de supporter, genre, on pourra pas vivre, et j'avais plus de gras sur la peau, donc ça commençait à manger mes muscles, donc on me faisait mesurer ma masse musculaire aussi, puis c'était en train de dégénérer, c'était vraiment horrible. Je me souviens aussi, genre, je sentais mes organes sur mon ventre. Quand je pesais sur mon ventre, c'est... Fait que je refusais de prendre du poids. Fait qu'ils ont dit, OK, si tu vas pas prendre du poids, on va te forcer à prendre du poids, du coup. Donc, ils m'ont hospitalisée, premièrement à Saint-Hyacinthe, mais j'étais trop têtue. Genre, ça me tentait pas de collaborer, donc ils m'ont mis au Douglas, à Montréal.
OK.
Dans un genre de maison... Pour les jeunes avec des troubles alimentaires et des autres troubles.
Puis avant de se rendre là au point d'aller à Douglas, est-ce que à un moment donné, parce que ta mère au début elle a fait un commentaire en disant ben là tu manges pas, mais entre ce moment-là et Douglas, est-ce que ta mère a essayé de faire d'autres interventions? Est-ce qu'elle essayait que tu manges puis tu refusais? Comment ça se passait?
Ouais, genre, je refusais toujours. J'allais pas manger. Elle voulait vraiment que je mange. Elle faisait, genre, mes repas préférés et tout ça. Et je me sentais mal, genre, elle essayait de m'aider. Elle cuisinait, puis j'étais genre, non, genre, je vais pas manger. Des fois, comme, je prenais l'assiette et j'allais dans le sous-sol, puis je donnais la nourriture aux chiens. Je me faisais vomir aussi. J'essayais, mais je réussissais pas vraiment dans ce sens-là. Puis... Ouais, il y avait des moments, c'est sûr que je mangeais des fois, puis j'avais comme des safe food, comme ils disent, donc je mangeais ça comme couple de fois par semaine. Genre, il y avait genre des Fruit Loops que je mangeais, j'ai découvert un mets asiatique d'une certaine restaurant, donc je pouvais manger ça, mais c'était vraiment compliqué comme pour ma mère, comme il fallait vraiment que ça soit des choses spécifiques que je peux manger à certains moments de la journée, certains jours de la semaine.
Puis à ce moment-là, quand elle voulait que tu manges, Est-ce que toi, tu disais, c'est toi qui m'as poussé à arrêter de manger ou tu voulais encore continuer cette guerre-là avec elle ou t'étais juste dans « moi, je veux perdre du poids, c'est tout, là? »
Je pense que je lui ai dit des fois, genre, « mais tu voulais que je sois mince maintenant? » Genre, « je suis mince, comme, qu'est-ce que tu veux? » Mais ça commençait, genre, des arguments, nous deux, puis... Okay. on se criait après, puis c'était juste... ouais, ça se passait pas bien. Donc, après un bout, j'arrêtais juste de parler de ça, vraiment.
Puis, après ça, t'es allée à Douglas, t'étais rendue... T'avais 12 ans à ce moment-là?
Ouais, 12... fin 12, ouais.
OK, presque 13 ans.
Ouais.
T'es restée là combien de temps?
Vraiment longtemps, 5 mois.
5 mois, ah oui.
Ouais.
Puis comment ça se passe là-bas? T'es sous supervision ou...
C'est comme un foyer de groupe, mais pour personnes avec qui il y a des troubles de comportement alimentaire.
Mm-hmm.
Donc, comme une petite maison, mais à l'intérieur, ça ressemble plus à un hôpital. Tout le monde a une chambre ou une chambre partagée avec quelqu'un d'autre. C'était séparé en deux. C'était séparé entre la section respite et active.
OK.
Donc, quand tu rentres, t'es en respite, puis en respite, t'as pas le droit de marcher, t'as pas le droit de trop bouger, tu manges plus de calories, y a beaucoup plus de règles. Puis pour partir de respite, il faut que t'ailles un certain poids pour aller au actif. Puis à actif, tu peux être actif. Donc tu peux marcher, tu peux faire des activités, de la zoothérapie, il y avait un arcade, il y avait une gymnase, l'hôpital est vraiment, vraiment grand, le Douglas, donc on pouvait prendre des marchés, tout ça. Ouais.
Est-ce que tu te sentais bien à cet environnement-là ou tu avais encore envie de rechuter?
Au début, non, ça me gossait. Je voulais pas que le monde me dise de manger. Puis j'essayais vraiment de ne pas manger et nous pesait tout le temps. Fait que ça me faisait beaucoup de peine de, tu sais, genre, voir que mon poids augmente. Puis ça me faisait, genre, vouloir rechuter, mais on peut pas vraiment, genre, rechuter. Il y a tellement de règles, puis ils nous forçaient, puis ils nous faisaient, genre, des menaces, mais c'est pas vraiment des menaces, mais qui vont nous mettre, genre, une tube si on mange pas. Mm-hmm. Donc, le tube qui nous nourrit. Donc, j'ai comme, non, je veux pas une tube, c'est horrible, parce que ça, il y avait même plus de calories là-dedans. Fait que j'étais comme, OK, je vais juste, comme... manger, ou bien si on veut pas manger, on pouvait boire des ensures, c'est comme un remplacement de repas pour supplémenter notre repas si on mangeait pas.
Mm-hmm. OK. Puis là, ça s'est terminé autour de quel âge?
Ça s'est terminé, je pense, en janvier, donc j'allais avoir 13 ans, je pense.
OK. Ouais. Puis par la suite, as-tu eu d'autres chutes ou t'as réussi à t'en sortir de l'anorexie?
J'ai eu des rechutes. J'avais un plan alimentaire, donc qu'est-ce qu'il fallait que je mange? J'étais suivie à l'externe, du coup, donc c'était comme pareil à l'hôpital, mais comme en vraie vie.
Mm-hmm.
Donc, il fallait que je mange dans une salle avec un prof qui me surveillait. Et j'avais un plan alimentaire à suivre. Je faisais des rechutes, mais j'étais confortable avec le fait que tout soit vraiment contrôlé, comme tout était vraiment écrit, genre, je vais manger ça, comme ça pour le déjeuner, ça pour le dîner, ça pour le souper, parce que j'avais un plan alimentaire, donc je savais, genre, j'étais plus à paix avec ça. Mais quand j'ai sorti de l'hôpital, j'étais quand même en, genre, j'étais pas à un poids normal, mais c'était, genre, je pouvais vivre avec ça, tu sais.
Oui.
Donc, à la maison, je me pesais moins aussi. Parce qu'on a tout retiré les choses comme ça. Donc, j'ai fait des rechutes, puis ça m'a pris du temps, mais à fur et à mesure, je me suis en sortie. C'est ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est encore quelque chose qui est difficile pour toi?
Oui.
Oui.
Ouais, c'est sûr. Je pense. Et j'ai parlé avec d'autres personnes à l'hôpital. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas.
Oui.
Puis on s'est tout dit que. On pense que l'anorexie, c'est quelque chose qui parle pas vraiment, ça reste au fond de ta tête, mais t'apprends à gérer ça, puis à l'ignorer.
C'est un trouble que tu dois te battre toute ta vie pour ça, puis que c'est comme de choisir à tous les jours de pas laisser ce trouble-là prendre la place, là, mais c'est un gros travail que t'as fait sur toi quand même, puis je pense que tu peux être vraiment fière de ça, tu sais. Après tout ça, comme si c'était pas assez, t'as aussi eu des tentatives de suicide.
Ouais.
À partir de quel âge ça a commencé, ça?
Je pense que ça a commencé à l'hôpital. OK. Donc, au Douglas.
À Douglas.
Puis, c'est quelque chose que j'ai souffert avec pour très, très, très longtemps. Et Ouais, j'ai fait des tentatives. Je pense la première était, j'avais 13 ans, puis depuis ça, j'en ai fait genre peut-être 10 à... Ouais, peut-être environ 10.
OK, puis la première fois, est-ce que c'était relié à ton anorexie, au fait que tu étais enfermée à Douglas, ou c'était plus un ensemble de plein de choses?
Je pense que c'était vraiment beaucoup comme ma relation avec ma mère.
Mm-hmm.
Puis juste vouloir m'en sortir de ça. Puis
ouais.
On a fini par m'en sortir de ça. Genre, la DPJ s'est intervenue, puis je suis allée en fight group. Mais il y avait toujours ça dans ma tête. Genre, j'avais beaucoup de traumatismes et j'avais beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer dans ma tête parce que je me suis tellement fait comme abuser pendant que j'étais enfant par ma mère. Donc, ouais, je voulais juste toujours m'en sortir quand il y a quelque chose qui se passe que j'aimais pas. Genre, j'étais juste comme, c'est ça la solution, je veux juste partir.
Mm-hmm.
Puis j'avais aussi un TPL, donc ça aidait pas. Donc, j'avais des fluctuations. Fluctuations?
Des émotions qui fluctuaient, oui.
Ouais.
Puis là, c'est ça, tu sais, dans le fond, avec tout ça, là, tu dis que t'es allée en foyer de groupe.
Mm.
C'est quoi la différence entre un foyer de groupe puis une famille d'accueil?
Une famille d'accueil, c'est comme une famille, donc une femme ou une personne normale, pas formée, juste quelqu'un de tous les jours qui prend des enfants dans leur propre maison.
Mm-hmm.
Un foyer de groupe, c'est comme un genre d'appartement ou une maison plus grande gérée par des intervenantes, plusieurs intervenantes. Donc, il peut y avoir 10 intervenantes qui prennent des shifts. Donc, c'est eux nos parents.
Mm-hmm.
Genre, mais ils font pas semblant d'être nos parents non plus, ils sont juste des intervenantes. Donc ouais, c'est juste des personnes bien formées pour nous aider.
Pour vous accompagner avec tous ces traumatismes-là. Ouais. OK. Puis est-ce que par la suite, t'es allée en famille d'accueil ou t'as toujours été en foyer de groupe?
Non, j'ai vécu avec une seule famille d'accueil, mais ça n'a pas duré trop longtemps.
Mm-hmm.
J'avais proche de majorité, puis c'est passé moyen, puis j'étais pas souvent là parce que j'aimais pas trop ça là-bas.
La majorité des expériences que tu as vécues se sont tous passées avant que tu aies 18 ans?
Oui.
C'est comment de vivre tout ça dans un si jeune âge? Tu sais, de vivre des gros problèmes puis des problématiques que même un adulte a de la difficulté à gérer. Comment toi, en tant qu'enfant, tu gérais ça? Puis est-ce que ces traumatismes-là t'ont suivi à l'âge adulte?
Je pense que j'ai géré ça, juste avec beaucoup de thérapie. J'étais très, très bien suivie avant mes 18 ans. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé ça. Et mes traumatismes, ils ont resté, mais c'est, je sais pas, ils sont pas aussi prévalents dans ma vie en ce moment. Donc, disons comme le tremblement de terre, ça m'affecte plus vraiment. J'ai un peu une peur de voir des grandes tours de vraiment proches, des fois. Mm-hmm. J'aime pas trop le regarder trop longtemps, je me sens bizarre.
Oui.
Mais, ouais, pour les fusils, quand j'attends des gros bruits, je sursaute quand même. Genre, il y a des petites choses qui me suivent, mais ouais, c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est sûr.
T'as eu beaucoup de thérapie quand t'étais jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, t'essayes encore de travailler sur ces traumas-là avec la thérapie ou par toi-même? Est-ce que t'essayes d'être capable de te libérer de ça?
Oui, je suis en thérapie toujours, plutôt pour comme... J'irais essayer d'avoir une relation saine avec l'attachement.
Mm-hmm.
Parce que j'ai justement vécu des choses bizarres, des choses intenses quand j'étais jeune. J'étais avec ma mère qui était abusive. Elle montrait de l'amour. Des fois, elle m'haïssait. Genre, c'était vraiment on and off. Puis après, on m'a pris de chez elle. Je suis allée en foyer de groupe. Puis j'ai changé de foyer de groupe. Donc, tu sais, j'ai jamais pu avoir comme des relations
solides.
Mais en relation amoureuse, j'ai toujours eu des relations très longues et très, très solides. Mais j'ai toujours des peurs que des choses se passent mal. J'ai beaucoup perdu des personnes aussi, genre avec la mort. Donc, j'ai beaucoup des peurs de ça aussi. Ouais.
Puis aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à pardonner ta mère? Est-ce que vous avez réussi à avoir un terrain d'entente ou est-ce que vous êtes capable d'être bien ensemble ou c'est encore difficile la relation?
C'est difficile et je pense pas que je veux une relation proche avec elle. Genre, mm-hmm. je peux la visiter, je peux rester là quand, comme entre des endroits si je déménage.
Oui.
Mais c'est pas... Non, je pense pas. Ouais.
Mais je crois que c'est correct. C'est important, je crois, de choisir son bien-être avant de continuer de cultiver des relations juste parce que la personne est notre parent.
Oui.
Plutôt que... Si tu cultives une relation avec quelqu'un, mais que cette relation-là est toxique pour toi, ça fait juste nuire la personne. Ça n'a pas d'importance que ce soit ton parent, ta sœur, ton frère, peu importe. Ce qui est important, c'est ce que la personne t'apporte dans ta vie, je crois.
Oui, exactement.
Puis aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu es intervenante psychosociale.
Oui.
Oui. Est-ce que tu penses que tu t'es tournée vers ce métier-là pour t'aider, toi aussi, à guérir ces blessures-là, ou tu veux vraiment sauver les gens? As-tu le syndrome du sauveur?
Je dirais, c'est pas pour mon propre bénéfice être intervenante. Et le syndrome du sauveur, je l'avais vraiment, vraiment beaucoup quand j'étais ado. Je voulais vraiment sauver tout le monde. Mais j'ai travaillé ça, donc j'ai plus le syndrome vraiment du sauveur. Mais avec le temps, je pense, comme je suis quelqu'un de très spirituel, donc avec le temps, la méditation, la prière et tout ça, je pense que j'ai appris que j'ai traversé tout ce que j'ai vécu à cause qu'il fallait que j'apprenne à aider d'autres personnes qui sont dans des situations comme pareilles. Et j'ai tellement vécu tellement de choses différentes, je pense que je peux aider tellement de différentes sortes de personnes, genre des personnes qui ont vécu des désastres naturels, des personnes qui ont vécu le suicide, l'anorexie. Donc, je pense vraiment que j'ai passé à travers ça pour pouvoir empathiser avec les autres personnes. Parce que je dirais comme dans le milieu, il y a beaucoup de personnes qui sont intervenantes qui n'ont pas vécu des troubles de santé mentale intense ou le suicide et tout ça. Donc, ils peuvent pas comprendre ce que le monde sont en train de vivre. Moi non plus, parce que je ne vis pas leur vie exactement, mais je peux avoir plus une idée de ça et je sais comment ça sent. Quand, genre, j'ai déjà travaillé, puis j'ai mis du monde qui faisait des tentatives de suicide, je les amenais à l'hôpital et je savais exactement qu'est-ce qu'ils vont passer à l'hôpital. Je sais exactement comment ça se passe, les procédures qu'ils font. Donc, tu sais, je peux les rassurer, je peux dire non, l'hôpital, c'est chill là-bas. Je dis pas que moi j'ai vécu ça, mais je dis genre, il y a d'autres mondes qui ont vécu ça et je sais que c'est chill là-bas. Donc, je peux me sentir bien dans mes interventions parce que je sais exactement de quoi je parle.
Le bagage que tu as, c'est ça, t'apportes l'expérience qui fait en sorte que tu peux rassurer les gens puis tu peux les accompagner en comprenant leur réalité plutôt que de juste te mettre à leur place. Là, tu sais exactement par quoi ils passent, même si la raison est différente de la tienne. À l'âge adulte, comment tu reprends le contrôle sur ta vie après autant d'événements traumatisants?
Je pense que j'ai jamais dû vraiment comme reprendre le contrôle de ma vie. Je pense que ma vie a pris le contrôle un peu plus quand quand on m'a pris de chez ma mère.
Okay.
Après ça, tout était quand même chill, même si je faisais genre des tentatives et tout ça, mais en général, tout se passait bien. En âge adulte, je trouve ça difficile quand même d'avoir des amis à cause que je dirais que j'ai grandi trop vite et j'ai tellement vécu de choses tellement genre rapidement comme avant ma majorité. Donc, en parlant avec le monde, genre, ça paraît vraiment la différence de réalité qu'on vit. Puis, c'était difficile en temps de relation avec les personnes, mais ça s'est bien passé. Ma vie, j'ai repris en contrôle grâce aux thérapies et aux docteurs et tout le monde qui m'ont aidée.
Est-ce que c'était d'emblée que tu avais envie d'aller à l'école pour faire ton cours en intervenante? ou tu t'es allée plus tard, puis au début, tu savais pas trop ce que t'allais faire de ta vie?
Non, je savais toujours ce que je voulais faire. Je suis très passionnée et ambitieuse, donc j'ai toujours su que je voulais aider le monde. Mm-hmm. Je savais juste pas comment, comme quel cours prendre et tout ça. Je voulais être neuropsychologue, je voulais être psychologue, mais il y a trop de temps à l'école, donc ça me tentait pas. Genre, c'est comme 10 ans à l'école. Donc, je me suis dit que je vais être intervenante comme les intervenantes qui m'ont aidée. Et il y a une couple d'intervenantes qui m'ont vraiment inspirée à faire ça comme travail. Donc, j'ai décidé de prendre ça parce que c'était plus proche d'être une psychologue, mais genre moins d'école. Donc, j'aide le monde, mais je suis pas obligée d'aller à l'école aussi longtemps.
Tu les aides aussi sur le terrain, là. Tu sais, t'es là avec eux pour les accompagner dans les moments qu'ils vivent.
Mm-hmm.
La psychologue ou peu importe va être là quand même, mais dans son bureau avec des discussions. Mais toi, j'imagine que tu accompagnes les gens, mettons, à un rendez-vous qui ont besoin ou ces choses-là.
Ouais.
Comment tu vis ça, ce travail-là? Est-ce que des fois, ça te trigger ou t'es vraiment bien où est-ce que t'es, puis tu réussis à les accompagner puis sentir que t'es à la bonne place?
Le travail d'intervention, je pense que c'est what I'm meant to be doing.
Genre, ce que t'es fait pour faire.
Ouais, ce que j'ai fait pour faire. Ça. Ouais, exactement. Genre, il y a des fois, le monde me demande, genre, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je suis tellement contente là-dedans. Genre, je pense, je veux rien faire d'autre. Genre, et pour ce qui est être triggered, honnêtement, pas vraiment. J'ai la capacité, vu que je suis allée à l'école pour ça, on a vraiment appris à, c'est nous mettre à part des situations des autres. Je suis vraiment capable de séparer ça. C'est pas ma vie, c'est leur vie. Et moi, je suis correcte. Il faut vraiment que... Il a fallu que je dise vraiment à moi-même, genre... quand j'étais plus jeune, en thérapie, que... T'sais, maintenant, je suis safe. Avant, j'étais genre... Ma vie était en danger et tout ça, mais maintenant, ça va. Donc, il faut... Genre, je me rassure beaucoup et je suis capable de travailler là-dedans facilement et de me séparer de ça. Je travaille beaucoup en gestion de crise. Donc, tout ce qui est suicide, travailler avec des personnes en situation d'itinérance. Mais ce qui me touche, qui toucherait tout le monde, c'est vraiment normal, c'est les personnes qui meurent, les usagers, comme surtout en itinérance, les personnes qui meurent d'overdose. Ça me touche. Mais je pense que je serais psychopathe que ça ne me touche pas. Là,
non,
ça. Ça me touche vraiment et ça me fait beaucoup de la peine.
Oui.
Mais à part ça, ça va.
Mais c'est bien quand même que tu aies réussi à faire cette séparation-là de ta vie et de ton travail parce que si tu veux être capable de bien aider les autres, tu peux pas te laisser ébranler par chaque situation que tu vis. Il faut que tu sois là pour pouvoir les épauler puis être leur soutien.
Mm-hmm.
Pas pleurer avec eux, là.
Ouais, exactement. Ouais, je voulais vraiment être sûre que je me mets pas dans la situation. Et je pense que le monde pense souvent ça en thérapie, que, mais comment est-ce que, genre, comment toi tu te sens, comment, genre, toi tu prends ça, même moi, genre, en thérapie, je pense que les intervenants, on se sépare vraiment de la situation, comme si, genre, on est une personne différente en intervention qu'en vraie vie, donc... Ce qu'ils me disent, ils peuvent me dire vraiment l'histoire de ma vie, mais c'est eux qui sont en train de le vivre. Moi, ça va pas me toucher. Je suis vraiment en mode, qu'est-ce qu'on va faire pour aider? Je vais écouter, tu sais. Je pense pas à moi-même dans ces moments-là.
Puis dans ta vie personnelle, depuis que tu as l'âge adulte, puis que justement tu as trouvé ton travail... T'as trouvé un travail qui te passionne. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé à bâtir des fondations solides pour créer une vie où est-ce que tu te sens mieux, que tu te sentais dans, si on peut dire, ton ancienne vie, là, quand t'as vécu tous ces traumatismes-là?
Ouais, ça m'a aidé à bâtir une meilleure vie. Faire quelque chose qui me passionne à tous les jours et vraiment aider le monde, c'est quelque chose qui me passionne. Comme quand je rentre au travail, comme je suis excitée d'entrer au travail, j'ai hâte. Donc, je pense, ça m'a vraiment aidée. Aussi, trouver l'espoir dans le monde aussi. Voir qui le monde sont vraiment au fond d'eux, voir ouais. l'humanité dans les gens, ça me touche vraiment parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, si tu sors ou tu vois des amis, il y a toujours une carapace, mais ouais. voir comme, pouvoir comme la revoir sans carapace, genre, je réalise vraiment qu'on est tous pareils, puis on veut vraiment tous la même chose. On veut juste tous être aimés, on veut avoir un toit, on mm-hmm. veut, on va être nourris, genre, on veut juste tous être aimés, puis c'est ça qui, ça m'inspire beaucoup.
Aujourd'hui, tu as encore de la difficulté, tu disais, avec les relations amicales, par exemple, à connecter avec les gens à cause de ce que tu as vécu, parce que vous êtes sur des réalités différentes. Ouais. Est-ce que tu réussis quand même à trouver des façons de connecter avec les gens?
Ouais, j'ai des amis, je connecte avec les gens et je trouve mes personnes. Je dirais, ce qui m'a aidée, c'est vraiment trouver des personnes qui sont artistes. Mm. Donc, on a vraiment une profondeur émotionnelle comme ouais. pareil. Donc, ça, j'ai trouvé ça. Puis maintenant, je suis 7 pour ça. Et ouais, c'est ça qui m'a vraiment aidée, comme aller plus dans le domaine d'art.
D'être capable aussi de connecter avec les gens puis d'échanger sur ton expérience puis ce que tu as vécu, je pense que ça l'aide aussi au cheminement parce mmh. que c'est tellement lourd, ce bagage-là, que d'en parler avec les gens, ça l'aide à sortir ça pour pas tout garder ça en dedans de toi.
Mmh.
T'as parlé aussi que t'as été diagnostiquée TPL.
Ouais.
Le trouble de personnalité limite, corrige-moi si je me trompe, là, mais de ce que je sais, il n'y a pas de traitement pour ça. Il n'y a pas de médicament que tu peux prendre pour ça, non. C'est ça? OK.
Mais,
puis oui, comment tu gères ça? Est-ce que, tu sais, ça ressemble à quoi, là? Est-ce que c'est des gros pics d'émotions? À quoi ça ressemble exactement?
Donc, il n'y a pas de traitement pour le TPL, mais on peut ne plus avoir assez de symptômes pour être considéré TPL
okay.
avec le temps. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, maintenant, j'ai plus TPL.
OK.
Depuis que j'ai, je pense, 21 ou 22 ans.
OK.
Donc, on a retiré la diagnostic, puis je suis plus dans la clinique de TPL, comme pour des suivis et tout okay. ça. Donc, ouais, j'ai pu passer à travers ça. Mais ça ressemble à quoi? C'est un trouble d'attachement le plus. C'est beaucoup... ça a beaucoup lien avec les attachements qu'on fait. Donc, et ça vient, c'est causé, on sait pas exactement la cause, mais souvent c'est à cause des traumas en enfance qui a lien avec l'attachement. Donc, disons, un parent qui est genre froid et chaud,
mm-hmm.
c'est un parent qui est toujours parti, un parent qui est abusif, un parent, c'est quelque chose comme ça ou d'autres traumatismes en enfance. Donc, c'est pour ça que j'étais la candidate parfaite pour ça parce que j'ai vécu tellement de traumatismes en enfance.
Oui.
Donc, on dirait que mon cerveau était toujours en mode survie ou en mode, genre, quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer, genre, mm-hmm. hyper vigilance tout le temps. Et on dirait que j'étais jamais neutre. Tu sais, quand tu vis ta vie, t'es neutre, des fois, t'es pas contente ou triste. Moi, quand c'était le pire, j'étais toujours juste tellement contente ou vraiment, vraiment déprimée, je voulais mm-hmm. mourir. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, c'était immédiatement « je veux mourir ». Genre, ça doit même pas être intense, genre, quelque gros comme problème, juste comme avoir un... Je sais pas, si je fais un test à l'école puis j'ai pas une bonne note, ah, oh, je dois mourir. C'est... Puis c'est vraiment intense parce que tu ressens vraiment cette envie-là, tu ressens vraiment des émotions tellement intensément quand c'est... ça reflète pas vraiment la réalité de la mm-hmm. situation. Donc, j'ai pris des médicaments pour toute ma vie, depuis 12 ans, pour ça, pour l'humeur.
Oui.
Mais maintenant que ça commence à mieux aller, je diminue parce que oui. l'humeur est...
Est plus stable.
l'humeur est stable.
C'est sûr que c'est ça, de vivre tout ça, c'est pas facile. Mais en plus d'ajouter, c'est ça, les traumas aux situations que tu avais vécues, plus le TPL, ça faisait beaucoup. Aujourd'hui, tu dirais, c'est ça, tu n'as plus le diagnostic parce que tu contrôles mieux ces choses-là? Tu as oui. plus travaillé sur toi pour pouvoir oui. contrôler ça? Ou...
C'est même pas une question de contrôler. C'est pas comme l'anorexie où que c'est toujours là dans ma okay. tête. je suis pas comme en train de contrôler mes émotions, comme « Ah, je les sens », genre, non, je suis comme... Avec le temps, ça a juste décliqué dans ma tête. Avec le temps d'être, tu sais, être en paix,
ouais.
Habiter tout seul, faire une job que j'aime, apprendre, mm-hmm. aller à l'école, apprendre quelque chose que j'aime, juste être en paix et méditer et genre ouais. voir des amis et trouver ma spiritualité, ça m'a juste aidée et avec, au fur et à mesure, je perdais des, ouais. des symptômes, puis maintenant, c'est relax.
Je pense que tout ce que tu viens de nommer, ça l'a aidé beaucoup ton cheminement aussi. Rajoutons ça à la thérapie. Oui. C'est quand même des choses qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, t'es capable, je pense, là, de dire que t'es bien puis que ouais. t'aimes ce que tu fais. Comment on passe aussi de faire plusieurs tentatives de suicide, avoir envie de mourir à plusieurs reprises, puis finalement se raccrocher à la vie?
Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et je dirais vraiment juste... Avec ça, c'est la spiritualité qui m'aide plutôt. C'est vraiment comme... Je suis pas catholique, je suis pas vraiment une religion spécifiquement, mais je crois en Dieu. Mm-hmm. Puis je pense juste comme... Prendre le temps de savoir que tout ce qu'on est en train de vivre... Genre, on est fait pour vivre ça, puis il n'y a rien qu'on vit dans la vie qu'on n'est pas capable de surmonter.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, je suis tellement en amour avec la mission que j'ai pour la vie, comme aider oui. le monde. Je ne veux pas les laisser tomber. Et je ne veux pas laisser mon younger self tomber non plus, comme oui. qui j'étais quand j'étais jeune. Je vois des photos de moi quand j'étais enfant et je suis comme, non, je ne vais pas la laisser tomber. Tu sais, je fais ça pour elle. Genre, j'aime faire des choses comme m'acheter une crème glacée. C'est quelque chose que moi, comme quand j'avais 8 ans, aurais aimé, tu sais, faire des choses pour ouais. elle. Parce que, genre, elle a pas eu la chance vraiment de, comme, d'être contente. Et je vais être contente pour nous deux.
C'est beau ce que tu dis, mais je pense que de travailler sur son enfant intérieur, c'est tellement important. Mais de... Tu sais, de toujours penser à cet enfant-là puis à essayer de, justement, de la reconstruire. Je crois que c'est ça qui aide le plus dans le cheminement aussi.
Ouais.
Puis c'est vrai que tu t'es donné la mission d'aider les autres, puis c'est une belle mission, puis ça t'apporte tellement dans la vie. Je trouve que d'être allé te chercher des choses qui te font du bien, des choses qui te rendre satisfaite de ce que tu fais, que des passions que tu as, je pense que ça t'aide tellement aussi à te raccrocher à la vie puis à pas avoir envie de laisser tomber malgré les épreuves, parce que c'est sûr qu'à l'âge adulte, t'as aussi des épreuves.
Ouais.
Puis il y en aura toujours, mais si tu les gères mieux, parce que quand t'es enfant, c'est difficile de gérer ça, mais quand t'es adulte, t'as la maturité émotionnelle pour être capable de gérer ces choses-là puis d'aller chercher de l'aide si tu sais que t'as besoin.
Ouais.
Puis je trouve que t'as fait tellement un cheminement incroyable. D'avoir vécu tout ça à des si jeunes âges, c'est abominable, franchement. Là, c'est terrible. Mais d'être rendu où est-ce que tu es aujourd'hui, je trouve que t'es vraiment une inspiration, puis t'es un modèle pour les gens qui sont dans une passe plus sombre, mais de leur dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Là, puis c'est facile à dire quand notre vie va bien puis tout ça, mais quand on voit quelqu'un comme toi qui a vraiment vécu des choses difficiles puis que tu as réussi à t'en sortir, je pense que tu peux vraiment être fière de toi. Oui. Puis est-ce que toi, t'arrives à être fière de ton cheminement?
Ouais, non, mais je suis vraiment, vraiment fière de mon cheminement et c'est quelque chose que je peux comme... Je peux dire, et genre, je suis pas gênée de dire ça parce que, genre, il y avait tellement de personnes, genre, avec moi en foyer de groupe qui sont pas dans ma situation. Il y a une fille qui est morte, qui était mon amie. Il y a un autre gars qui est sans abri maintenant.
Ouais.
C'est comme, être rendue où que je suis rendue maintenant, c'est pas normal. C'est comme pas la réalité de tout le monde.
C'est comme un miracle, presque, ouais. après tout ce que t'as vécu.
Ouais, et genre, j'ai une autre personne en fin de groupe qui, lui, il va hyper bien aussi, puis on se parle toujours, puis on est vraiment comme... On est vraiment grateful, tu sais, qu'on a pu survécu tout ça.
Surmonter tout ça.
Ouais.
Puis, comment, après tout ça, justement, tu réussis à être reconnaissante de la vie? quand la vie t'a envoyé autant d'épreuves?
Je me donne des raisons d'apprécier la vie. Je fais ce que je veux, genre, pour apprécier la vie. J'ai toujours voulu faire de la poésie slam. J'en ai fait, comme l'année passée, j'ai fait des compétitions. J'ai toujours voulu aller en Asie. Je me suis amenée en Asie. J'ai voulu écrire un livre de poésie. J'ai fait une petite livre, puis je vendais ça aux autres artistes de Montréal. Juste vraiment réaliser mes rêves et juste en trouver plus et plus et plus. De rêver de plus en plus grand. Et ouais, c'est ça qui m'aide, qui me garde comme good.
Marie-Madeleine, merci pour ta vulnérabilité, pour ton ouverture. Je sais que c'est des discussions qui sont pas toujours faciles, mais quand même, tu t'es ouverte, tu as été transparente, puis je pense que tu es un bel exemple à suivre pour les gens qui vivent des moments plus difficiles. Je te remercie d'être venue ici.
Merci beaucoup de m'avoir.
Tout le monde, je vais mettre les réseaux sociaux comme d'habitude dans la barre de description. On se voit dans un prochain épisode. Bye!